Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre.
In My Shoes.
Le sexisme est-il toujours à l'œuvre? Oui, réponse sans équivoque de l'ONU en 2023. Et dans les entreprises de tout secteur et de toute taille, les manifestations de sexisme dit ordinaire, c'est-à-dire le sexisme du quotidien, se constatent encore des salles de réunion aux open space en passant par les machines à café. C'est pourquoi notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « L'entreprise à l'épreuve du sexisme ordinaire » et nous allons déchiffrer comment débusquer et combattre les aspects du sexisme ordinaire dans le monde du travail.
Je pense que c'est le noyau dur de la résistance culturelle au progrès des hommes et des femmes et que si on ne comprend pas ça, on aura beau faire toutes les lois de la Terre, eh bien on n'avancera pas.
Notre invitée aujourd'hui est Brigitte Grézy. Haute fonctionnaire française, agrégée de grammaire, énarque et commandeur de la Légion d'honneur, Brigitte Grézy s'est consacrée depuis 25 ans aux questions de l'égalité femmes-hommes au sein de diverses institutions et ministères. Inspectrice générale des affaires sociales, elle a été l'auteur de nombreux rapports sur l'image des femmes dans les médias, leur quota dans les conseils d'administration ou l'enjeu de la parentalité. Présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de 2019 à 2022, Brigitte Grézy a également publié plusieurs ouvrages chez Albin Michel en 2009, Petit traité contre le sexisme ordinaire, La vie en rose pour en découdre avec les stéréotypes en 2014 et en 2017, Le sexisme au travail, fin de la loi du silence chez Belin. Brigitte, bonjour.
Bonjour.
Bon alors, il semble que vous êtes vraiment la personne idoine pour aborder le sujet. Et si je dois me faire l'avocat du diable, est-ce que le sexisme existe vraiment, toujours en 2024?
Il existe vraiment, et en plus, comme c'est quelque chose d'extrêmement insidieux et malin, il se reconfigure sans cesse. Donc quand on arrive à progresser dans un domaine, eh bien il se reconfigure autrement. Et c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir le reconnaître.
Et d'en parler.
Et d'en parler.
Alors, d'un point de vue personnel, je me suis demandé pourquoi cette appétence pour la thématique du sexisme dit ordinaire, c'est-à-dire le sexisme du quotidien. Pourquoi ce sujet pour vous, Brigitte?
Alors, moi, je crois que... Enfin, j'ai eu une enfance qui était très centrée sur le fait que les femmes devaient avoir des diplômes, qu'elles devaient travailler, que c'était un instrument de leur émancipation, notamment économique. Et ma mère nous poussait beaucoup. Et donc, j'ai ramassé le maximum de diplômes que je pouvais, donc l'agrégation, l'ENA. Et je me suis dit, bon, ben maintenant, je suis comme les hommes. C'est-à-dire que j'ai des compétences égales, un âge égal, une santé égale, je suis très grande. Je me disais, bon, voilà, j'arrive sur le monde du travail, il n'y aura pas de différence. Et très vite, évidemment, je remarquais toutes ces différences que je ne voyais pas au début, mais que j'ai tout de suite aperçues dans des milieux notamment majoritairement masculins. En 2007, j'ai commencé à me dire, c'est quoi tous ces petits signes, tous ces propos qui disqualifient, qui mettent de côté, qui censurent, qui déstabilisent? Voilà. Je suis déstabilisée de temps en temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Depuis 2008, j'ai mis tous mes efforts sur la question du sexisme. Le sexisme qui, en quelque sorte, légitime et justifie les inégalités constatées, hein, les justifie par un discours culturel d'infériorisation. Il ne crée pas véritablement les inégalités, mais il les conforte et il les justifie par un discours binaire qui vous donne des injonctions dont vous ne pouvez pas sortir. Donc c'est un frein terrible à la liberté des individus, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes.
Professionnellement, vous avez été confrontée dans votre carrière à ce qu'on appelle le sexisme ordinaire?
Je sais ce que c'est que d'être invisible. Je sais ce que c'est que les réunions interministérielles où il y a 80% d'hommes, surtout des finances, et où finalement on doit prouver sans arrêt qu'on est compétente, qu'on est bon et qu'il faut nous écouter.
Donc le sexisme, un sujet qui vous tient à cœur, mais quand on parle de sexisme dit ordinaire, de quoi parle-t-on? Parce que peut-être que c'est bon de rappeler la définition, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde.
Ça désigne une idéologie, des croyances qui érigent la supériorité d'un sexe par rapport à l'autre, le sexe masculin. Le sexisme ordinaire, lui, c'est le terreau sur lequel, finalement, les prédateurs s'autorisent à aller plus loin. Mais celui qui fait une blague lourde à la machine à café, c'est pas un agresseur en puissance dans la majorité des cas. Mais ça autorise les autres. Et donc, qu'est-ce que c'est que le sexisme ordinaire? C'est tous ces petits mots, ces paroles,
ses comportements, ses attitudes, qui, l'air de rien, de façon insidieuse, subtile, consciente ou inconsciente, infériorisent les femmes, les délégitiment, les déstabilisent, les disqualifient, et qui font que, finalement, il y a deux choses très ennuyeuses comme conséquence. Premièrement, eh bien, c'est des phénomènes d'exclusion, puisque ça joue, elles s'auto-excluent ou elles sont exclues. Et puis, ça crée de la souffrance. Cette souffrance infinitésimale qui tombe comme la goutte d'eau toujours au même endroit, finalement, crée beaucoup de souffrance. Et nous avons des chiffres là-dessus avec des baromètres d'évaluation. Donc, c'est ça, le sexisme.
Quand on évoque des chiffres, qu'on se dise... alors, on imagine qu'on n'a pas forcément toujours été soi-même objet de sexisme ordinaire, mais pourtant, il y a des chiffres qui parlent. 79% des femmes salariées des grandes entreprises considèrent que dans le monde du travail, elles sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes.
Entre 80 et 90% des femmes disent que le sexisme au travail a fragilisé leur confiance en elles et a entraîné un sentiment d'incompétence. Donc, on voit bien la douleur qui est liée à la déconstruction de l'image de soi. On ne peut pas vivre avec une image de soi dégradée. Et puis, on voit bien la perte d'énergie pour l'institution de travail dans laquelle les femmes sont. Donc, c'est vraiment une double perte.
Justement, si on veut être très concret, quelles sont les apparences donc, du sexisme ordinaire? Il y a plusieurs façons d'exercer du sexisme.
Oui, et c'est intéressant de décrire un certain nombre de comportements pour mieux pouvoir le déceler. Moi, j'en ai identifié 6 à peu près, 6 façons d'exprimer le sexisme ordinaire et qui existent toujours pour la raison que l'on est une femme. Première chose, c'est l'humour sexiste et qui est très, très ambigu parce que c'est l'humour autour de la machine à café où on dit « t'es blonde » ou vous voyez des tas de choses qu'on peut imaginer et qui, en fait, au lieu d'être un humour bilatéral, comme il y a beaucoup d'humour dans le monde du travail, et heureusement, c'est un humour bilatéral qui, en quelque sorte, réifie l'autre et qui la met dans une situation très inconfortable où elle dit « est-ce que je ris ?» Et à ce moment-là, je cautionne. Si je ne ris pas, j'ai l'air de la frustrer et je m'exclus du groupe. Donc, l'humour sexiste est une façon d'écarter les femmes. Deuxième chose, c'est toutes les incivilités que l'on trouve en réunion. Alors, on a mis des tas de mots anglais là-dessus, le mansplaining, le interrupting, le fait que les hommes interrompent souvent les femmes quand elles s'expriment en réunion, le fait qu'ils aiment réexpliquer ce que vient de dire une femme dans une réunion, le fait qu'ils se renvoient la balle entre hommes et que souvent, ils font comme si les femmes n'avaient pas parlé. Aujourd'hui, on ne demande plus aux femmes de donner le café, enfin de distribuer des tasses de café, mais on leur demande de distribuer le micro. Vous voyez comment ils se reconfigurent. Il y a tout ce qui est la fausse séduction, qui est terrible aussi. Et ça, c'est de faire des compliments inappropriés de quelqu'un qu'on connaît mal. Dis donc, tu as une belle robe, mais c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, ou c'est son supérieur hiérarchique. On est là pour être compétente, pour défendre un dossier. Et des études montrent que quand on fait un compliment aux femmes qui n'est pas attendu et qui n'est pas justifié, alors elle rétrécit son temps de parole et elle se rétrécit elle-même. La séduction n'est pas du tout en cause, c'est la façon dont elle est utilisée pour réifier les femmes. Il y a tout ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. Bon, alors toi, tu y vas, tu fais comme un homme, mais enfin tu mets tes talons et de la dentelle. T'es un homme et t'es une femme, enfin, vous voyez, le jeu n'est pas clair. Il y a tout ce qui est aussi ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. Toi, t'es si douce, si empathique, les femmes sont bienveillantes, tu vas être un leader, etc. Mais en fait, on les met à la communication, au RH, on les met jamais à la stratégie et aux finances. C'est-à-dire que c'est du sexisme bienveillant parce que ça les enjoint à avoir des rôles préformatés, préfixés. Et puis, il y a toutes les considérations sur la maternité qui n'arrêtent pas. Tu es enceinte, je croyais que tu aimais ton travail. Demain, tu es en temps partiel, tu vas te la couler douce. Non, mais tu vas pas aller en Chine, tu as 3 enfants, alors que elle est allée 15 fois en Chine dans l'année pour mener son contrat, mais au moment de la signature, tout ça, c'est des choses vécues. Et c'est vrai que face à ça, les femmes sont souvent dans le déni, parce que c'est insupportable.
Donc on est dans le déni, mais non, c'est pour mon bien, mais non, il ne m'a pas vu, mais non, c'était pour me faire un compliment, mais non. Donc il faut s'exercer à la confrontation, à la gestion des conflits, et à se mettre du côté de l'agresseur, puisque le sexiste est un agresseur, pour le déstabiliser et utiliser le message « je » en général. Hein, je vis très mal quand tu me dis que je n'ai pas les épaules assez larges, puisque tu vois bien que j'ai fait 3 missions, que c'est... Et là, ça casse un peu l'agressivité. En tout cas, c'est quelque chose qui se travaille et qu'on n'apprend pas à l'école, le travail mental, la gestion des conflits. Et c'est pour ça que les réseaux de femmes sont si importants.
Quelles sont les conséquences pour les victimes du sexisme ?
Alors, les conséquences pour les victimes du sexisme sont multiples. Alors, ça dépend évidemment, toutes les victimes ne se ressemblent pas. Le seuil de tolérance au sexisme ordinaire et la capacité à réagir, y compris parfois par l'humour, dépend totalement des individus. Il y a des femmes qui ont été forgées dans leur éducation, dans leur enfance, à se défendre en permanence, à réagir, etc. Et puis il y en a d'autres qui ont été surprotégées et qui ont beaucoup de mal. Donc ça dépend vraiment de la personne. Donc l'effet est absolument délétère, puisque elles peuvent donc d'une part perdre leur confiance en elles. Ça peut aller à des formes presque de harcèlement moral, mais là c'est à raison du sexe, qui peuvent totalement les perturber dans leurs compétences et dans leur travail. Et il peut y avoir des répercussions physiques même, hein, de psychosomatisme lié à ces agressions. Ça n'est pas encore tout bien étudié du point de vue de la souffrance, mais la souffrance est réelle. Et elle est d'autant plus réelle qu'on en est au balbutiement de ce qui peut être mis en place dans les organisations de travail pour aider ces femmes et pour lutter contre les auteurs. Et là, c'est vraiment l'un des grands enjeux.
Brigitte, on parle de sexisme ordinaire quand on parle de la relation homme-femme, le plus souvent, mais le sexisme ordinaire, parfois, les hommes aussi en sont victimes.
Alors, il y a deux formes de sexisme à l'encontre des hommes. C'est des formes de sexisme où on les assimile à des qualités féminines, donc dévalorisées, ou alors tout le sexisme lié à des rôles sociaux de sexe qui sont prédéterminés. Les hommes ne doivent jamais pleurer, ne jamais montrer une faille dans l'armure, faire partie du boys club, avoir des rythmes de temps effrénés, rester au bureau, disponibilité totale. Et on voit bien aujourd'hui, à la fois parce que nos modèles de croissance vont changer, mais aussi parce qu'il y a sur certains hommes véritablement des aspirations un peu différentes, de s'occuper de leurs enfants, mais aussi de l'écosystème, c'est-à-dire de travailler dans leur cité, d'être citoyen à part entière.
Est-ce que les choses ont évolué ces dernières années, en France ou à l'étranger? Avancée sociétale, avancée du droit?
Alors, le sexisme n'existait pas dans le droit du travail, ni dans le code pénal. La notion de sexisme n'existait pas. L'agissement sexiste a été introduit dans le code du travail en 2015, grâce au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, où nous avons inventé ça avec Marie Becker. Et puis, on a l'entrée également dans notre droit interne de la notion d'outrage sexiste, qui est effectivement porter atteinte à la dignité d'une personne dans la rue, dans un espace public. Alors aujourd'hui, l'employeur, il a évidemment un devoir de protection, hein, de ses employés, au titre de la santé, à la fois physique et mentale. Donc, il peut très bien, face à des dérapages sexistes, prendre une sanction disciplinaire qui peut aller du blâme jusqu'au licenciement. Parallèlement, les entreprises se sont mises en ordre de bataille pour faire de la soft law, si je puis dire, c'est-à-dire pour faire des chartes de mobilisation des entreprises pour lutter contre le sexisme. Et je veux citer là l'initiative Stop au sexisme ordinaire en entreprise qu'on a lancée il y a 5 ans. Avec 3 entreprises, on a lancé cette initiative sur une charte avec 8 types d'actions que les entreprises s'engageaient à prendre, au moins une par an. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 250. Et ce qui est demandé, je trouve que c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire qu'il y ait une affirmation au plus haut niveau de l'organisation que le sexisme ne passera pas dans l'entreprise. Hein. Aujourd'hui, ça doit être mis dans le règlement intérieur, mais bon, ça ne suffit pas. Là, il faut travailler sur une communication publique sans stéréotype de sexe. Il faut travailler sur l'évaluation avec des baromètres, ce qui est fait par Stop Initiative. Donc, il y a tout un jeu d'actions. Et je trouve qu'il y a vraiment des initiatives tout à fait intéressantes, avec des mises en situation, avec des jeux de théâtre, avec du travail sur la langue, avec des mises en situation, des études de cas, formation, sensibilisation. Il y a vraiment des progrès, beaucoup d'ailleurs de films qui sont faits. Et je crois que le tournant à prendre maintenant, très fort, c'est vraiment de jouer avec les hommes pour qu'ils cassent le phénomène de connivence, le système de connivence qu'ils ont en entreprise, pas seulement autour de la machine à café, en réunion, etc., etc., qu'on leur montre que ce qu'ils font, c'est des opérations d'exclusion, d'ostracisation, de souffrance, pour essayer de déplacer le curseur.
Quand vous dites jouer avec les hommes, c'était dans le sens les avoir comme alliés.
Absolument.
Des avancées aussi, je pense, grâce à des avancées sociétales.
C'est sûr que MeToo a déclenché un mouvement hallucinant, non seulement du point de vue des violences intrafamiliales ou des violences sexuelles, mais aussi des violences sexistes.
Depuis plus de 20 ans, vous m'avez dit « je suis une bricoleuse de l'égalité dans toutes mes actions, dans tous mes postes ». Est-ce que vous pouvez m'en parler ?
Quand on travaille des politiques d'égalité, on tire sur un fil et il y a plein d'autres fils qui va du temps de travail, de l'articulation des temps de vie, des classifications des emplois, y compris la langue inclusive. Et donc, il y a des sujets durs, lourds, structurels, les écarts de rémunération, la mixité des emplois, le temps partiel, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Et puis, il y a justement, sans arrêt, sur cette base, qui est vraiment la base de l'inégalité professionnelle, il y a des tas de sujets qui se greffent et sur lesquels il faut travailler. Ce qui est intéressant, très intéressant, mais très difficile à traiter dans le sexisme, c'est qu'il est de deux ordres. Il y a d'abord un sexisme interrelationnel entre les hommes et les femmes à titre privé, d'un bureau à l'autre, dans les réunions. Et puis, il y a le sexisme institutionnel, c'est-à-dire que l'institution elle-même est sexiste dans la mesure où elle procure des fiches de poste, où on a un vocabulaire à connotation virile. Pour ce poste, il faut en avoir, il faut des épaules, etc. Ou bien des évaluations de compétences ou de qualités qui sont dévalorisées pour les femmes et d'autres types de compétences valorisées, alors que c'est les hommes qui l'ont aujourd'hui, du moins, le plus souvent. Et donc, dans le sexisme institutionnel, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la charte, c'est mettre en place des référents, des sanctions, des évaluations. Dans le sexisme interindividuel, c'est plus de l'ordre de la réaction individuelle. Mais
votre préoccupation, on l'a compris, c'est de combattre le sexisme partout où il est, partout où vous pourrez le trouver, notamment en entreprise. Quelle est la solution quand on est face à du sexisme ?
Franchement, c'est très très dur de porter la responsabilité de la lutte contre le sexisme d'un point de vue personnel. Et pourtant, il ne faut pas lâcher. Moi, je pense qu'il faut réfléchir, mais il ne faut pas laisser passer. Je pense qu'on n'a pas intérêt à laisser passer parce que ce sera de plus en plus fort. Il faut aller voir son syndicat ou la cellule d'écoute, ou etc. C'est-à-dire qu'il faut un tiers extérieur qui permettra de trouver sa place. Autrement dit, le problème, c'est que très souvent, les femmes ne réagissent pas parce que la dénonciation est plus dangereuse pour elles que l'acceptation. Elles dénoncent, paf, elles sont blacklistées, elles sont considérées comme des emmerdeuses, etc. Donc, il faut faire très attention, c'est-à-dire ne pas laisser passer, mais tenter des choses dont je dirais que c'est des choses qui permettent de reformuler ce qui a été dit en termes non agressifs et en termes quasi positifs pour pouvoir déstabiliser le sexiste en lui montrant que ce qu'il a fait était contraire à la bonne marche de l'entreprise.
On a parlé des victimes. Est-ce qu'on peut parler des témoins? Il y a aussi les témoins du sexisme.
Oui, le rôle de témoin est essentiel. Et la preuve, c'est que dans tous les baromètres que l'on fait sur le sexisme, on interroge les victimes et les témoins. Il y a du sexisme passif. Ça veut dire qu'il y a du sexisme qui crée de la souffrance et des dégâts chez des témoins, comme le tabagisme passif crée de la maladie chez ceux qui respirent la fumée et qui ne fument pas. Contempler, voir, être témoin d'un agissement sexiste, c'est-à-dire d'une infériorisation, on ne s'en sort pas indemne. Ça crée de la souffrance. Et ça crée d'autant plus de la souffrance qu'on ne sait pas trop souvent comment réagir.
Il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est compliqué parce qu'il y a une fine ligne entre ce qui peut se dire, ce ne pas se dire. Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler aussi un peu de gender fatigue parfois, en disant on va exaspérer tout le monde à encore parler de ça, à argumenter sur les inégalités, etc.
Oui, mais c'est normal. Hein. Les choses sont en train de se transformer totalement. Objectivement, les espoirs des hommes d'acquérir des postes supérieurs sont quand même très réduits, puisque les femmes arrivent, qu'elles sont extrêmement compétentes et qu'il n'y a pas de raison de se priver des talents de la moitié de l'humanité. Mais donc, à mon avis, là, surtout dans une période où il faut repenser la croissance, où il faut repenser les liens avec autrui, je crois qu'il faut changer les notions de carrière. Encore une fois, s'occuper d'enfants, c'est pas quelque chose qu'il faut mépriser. Au contraire, il n'y a rien de plus difficile au monde que de s'occuper d'enfants, que de traiter leurs problèmes, que de les faire progresser, que d'en faire des adultes. Rien de plus difficile. Moi, j'aime bien dire que un congé de maternité, c'est l'équivalent d'un MBA, quoi. Vraiment, j'aime bien dire que finalement, arriver à traiter la colère d'un enfant, d'un bébé, c'est beaucoup plus difficile que la colère d'une secrétaire, hein, ou d'un collaborateur.
C'est la bonne occasion pour reconfigurer globalement les choses.
Moi, je pense que la bonne occasion, c'est de travailler sur la mixité des emplois et sur les stéréotypes de sexe qui aboutissent au sexisme, mais sur les stéréotypes de sexe qui attribuent des compétences et des qualités binaires aux hommes et aux femmes, alors que cette binarité n'a pas lieu d'être.
Est-ce que vous avez des suggestions à faire sur les actions que vous pourriez développer dans les entreprises qui vous semblent importantes au jour d'aujourd'hui?
Alors, le baromètre contre le sexisme a déjà bien pris, hein, puisque les entreprises y vont. La lutte contre le sexisme, c'est en quelque sorte nettoyer le paysage, quoi, pour qu'on ait des individus qui puissent jouer à part égale. Je pense qu'il faudrait quelques cas bien sentis pour essayer de créer une jurisprudence sur laquelle on puisse s'appuyer. Je vois des progrès énormes dans l'accompagnement du droit et dans l'évaluation de ce qui est fait.
Le sexisme ordinaire, ça va toucher bien au-delà du sexisme. Ça touche l'égalité homme-femme, ça touche les carrières, c'est une petite partie de ce qui est à l'œuvre derrière.
Oui.
C'est pour ça aussi que c'est important de le traiter.
Aujourd'hui, ce qui se passe dans le numérique, c'est un véritable scandale d'éviction à venir des femmes. Des tas de métiers qui vont se reconfigurer. La transition numérique, telle qu'elle avance aujourd'hui, c'est une transition déplorable pour la place des femmes dans la société. Donc, on voit bien que tout ça, ça s'appuie sur des stéréotypes. Puisque les femmes sont capables, en fait, que les compétences n'ont pas de sexe. Qu'on a des comportements différents, donc on a appris des choses différentes.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Brigitte Grézy, pour l'avenir?
De continuer à faire progresser à la fois le droit et les pratiques. Et en montrant que tous ces comportements binaires sont non seulement conservateurs et ringards, mais en même temps contre-productifs pour les individus eux-mêmes et pour la société. Parce que ne pas vraiment utiliser les talents à leur juste valeur de la moitié de l'humanité, c'est simplement suicidaire.
Vous venez d'écouter Brigitte Grézy dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. À bientôt pour un nouvel épisode. Et j'ai oublié de dire quelque chose, j'ai oublié de dire merci Brigitte.
Merci à vous.